Bon, ben, ce soir, on fait une émission spéciale sur le Rwanda.
Enfin. Après quelques rebondissements, on a le plaisir
de recevoir Alain.
Ouais. De recevoir Alain qui va se présenter tout de suite, nom, prénom, identité, activité. Non, qui est le tu es quoi? Tu es président?
Oui, alors voilà, bon, bien écoutez, bonsoir. Effectivement, je suis président du collectif des partis civils pour le Rwanda, le CPCR, qui est une association que nous avons créée, voici, je dirais, une quinzaine d'années, en 2001.
2001, ouais.
Précisément pour poursuivre en justice les présumés génocidaires rwandais qui sont en France. C'est pratiquement le seul objectif de notre association.
Alors, c'est une volonté d'engagement qui vient d'où au départ? De ton histoire personnelle, évidemment, et l'histoire de ta famille?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que personnellement, moi, j'ai travaillé au Rwanda en tant que coopérant. De 1970 à 1972, j'étais dans une petite commune de Save, tout près de Butare, dans le sud du Rwanda. Voilà, c'est à partir de là que, je dirais, mon intérêt pour le Rwanda s'est développé. Et puis il se trouve que quelques années, deux ans plus tard, deux ans après mon retour, voilà, j'ai rencontré celle qui est d'Afroza, qui est devenue mon épouse en 1977. Et effectivement, à partir de ce moment-là, le Rwanda, bien évidemment, a fait partie de nos vies. Je dirais dans un premier temps, simplement, comme ça, comme tout citoyen franco-rwandais. Et c'est en 1994 qu'effectivement, il y a eu, dans notre existence, un virage considérable qui a complètement bouleversé notre existence, comme elle a bouleversé l'existence de nombreux Rwandais à cette époque-là et encore aujourd'hui.
Alors effectivement, oui, il y a l'apparition de ce génocide qui touche ta famille. Et donc, la réception de ça, l'obligation de continuer avec ça, de vivre avec ça. Et puis il y a cette action dans la constitution d'un collectif qui s'occupe de faire du droit carrément, qui est carrément un collectif même d'enquête, de recueil, etc. se crée. Et comment vous avez ressenti la nécessité de créer ce collectif?
Alors en réalité, le génocide est arrivé en 1994. Bon, on savait que des événements graves se préparaient au Rwanda, tout simplement parce qu'on se tenait au courant de tout ce qui pouvait se passer là-bas dans ce pays. Et puis mon épouse, Dafroza, était revenue en fin février 1994 d'un court séjour au Rwanda, d'ailleurs un séjour qu'elle avait écourté parce que les choses allaient déjà très mal. Elle était allée voir sa mère et elle avait dû revenir au bout d'une semaine, tout simplement parce que dans Kigali déjà, les morts jonchaient les trottoirs, et sa mère lui avait dit, ben écoute, tu as un mari, tu as des enfants, il faut que tu repartes. Et donc, il y a eu ce génocide début avril 1994, et c'est pas tout de suite qu'on s'est senti, je dirais, concerné, engagé. C'est-à-dire qu'il a fallu d'abord, je dirais, digérer. Il y a quand même, mon épouse a perdu peut-être plus de 100 personnes de sa famille en 3 mois. Donc c'est, si vous voulez, un énorme cataclysme. Et il nous a fallu quelques mois, voire quelques années pour réaliser ce qui nous arrivait. Et c'est au cours d'un de nos séjours en 1997 qu'on s'est, nous, personnellement engagés, parce qu'il y avait déjà des plaintes qui étaient déposées depuis 1995. Deux en particulier, une contre l'abbé Wenceslas Munyeshaka, que beaucoup de ceux qui s'intéressent au Rwanda connaissent, qui est prêtre dans le diocèse d'Evreux, à Gisors, et puis une autre contre un médecin gynécologue, Sosten Monyemana, qui est toujours médecin en poste à l'hôpital de Villeneuve-sur-Lot, actuellement. Et donc, comme des membres de notre famille étaient des rescapés de la paroisse de la Sainte Famille, cette église où se trouvait l'abbé Munyeshaka pendant le génocide, eh bien, on a décidé, tout simplement, à titre individuel, de recueillir les témoignages de quelques rescapés. On a ramené ces témoignages, on les a remis à un avocat qui travaillait à l'époque dans l'affaire Munyeshaka. Et on a fait ça pendant 2 ou 3 ans, tout simplement pour nourrir ces plaintes qui, pour nous, semblaient un petit peu dormantes. Mais c'est véritablement, le déclic pour nous a eu lieu véritablement en 2001, après le premier grand procès qu'il y a eu à Bruxelles contre des génocidaires rwandais, hein, puisque au printemps 2001, 4 génocidaires ont été condamnés à Bruxelles. Un ancien ministre proche de la famille Abialimana, M. Iganiro, M. Neizimana, qui est un universitaire, et puis 2 religieuses d'un couvent du sud du Rwanda, près de Butare, le couvent de Sovu, et ces personnes-là ont été condamnées, alors non pas pour génocide en Belgique, parce que c'était pas possible de les condamner pour génocide, mais condamnées pour crimes contre l'humanité, à des peines qui pour nous étaient relativement faibles, puisque les peines de prison allaient de 12 à 20 ans. Mais l'essentiel, le plus important, c'était la condamnation.
C'est
voilà. Et au lendemain de ce procès, on a des amis qui s'étaient engagés pour que le procès en Belgique ait lieu, qui nous ont dit « Mais vous, en France, qu'est-ce que vous faites ?» Et donc, voilà, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit « Bah oui, qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc, on a décidé de rassembler quelques amis et on a créé le collectif des partis civils pour le Rwanda fin au mois de novembre 2001. Sans avoir l'intention d'être nous-mêmes, d'Afrozay et moi-même, sur le devant de la scène. Parce que c'était véritablement un groupe qui s'engageait. Mm-hmm. Et puis, au fil des mois, au bout de quelques années, il s'est trouvé que c'est nous qui étions le fer de lance de ce collectif, pour la simple et bonne raison que nous étions pratiquement les seuls à pouvoir aller au Rwanda, à recueillir les témoignages, parce qu'il fallait recueillir des témoignages, en particulier dans les plaintes qui existaient déjà. Ensuite, il fallait traduire ces témoignages. Alors, ces témoignages, on les recueillait soit auprès des rescapés, mais les rescapés n'étaient pas forcément les meilleurs témoins, parce que, par définition, les gens qui sont rescapés, c'est qu'ils se sont cachés ou qu'ils ont été cachés. Mais surtout parmi les tueurs eux-mêmes, soit des tueurs qui avaient été libérés, qui avaient purgé leur peine et qui étaient libérés et qui acceptaient de parler, soit des tueurs qui étaient en prison et qui y sont encore, et auprès desquels on avait accès pour pouvoir recueillir leurs témoignages, les traduire ensuite et les remettre à nos avocats qui étaient chargés de rédiger les plaintes et de les déposer auprès du tribunal de grande instance, du lieu d'habitation des gens qui étaient en France. Ce qui compliquait notre tâche, parce qu'il fallait d'abord en France savoir où ils étaient. Et ça, pour nous, c'était très compliqué, dans la mesure où on est une association très petite. Mmh. On n'a jamais dépassé 200 membres. Et pas forcément des gens qui sont, je dirais, qui ont la possibilité d'être très actifs au sein de l'association, pour les raisons que je vous ai données. Donc c'était compliqué. N'empêche, en 13 ans, on a quand même déposé 20 nouvelles plaintes. Et actuellement, il y en a 25, 26 sur le bureau des juges d'instruction parisiens.
Et c'est ça qui constitue la qualité et l'originalité aussi du travail du CPCR. C'est un travail, je dirais, à hauteur d'homme, puisqu'il y a eu cette plongée, au départ, peut-être une recherche, non pas de justice personnelle, mais en tous les cas
de justice
vengeance,
personnelle.
Ni de vengeance. Mais il y a eu cette découverte de cet ensemble du droit international, etc., etc., qui sont d'habitude le fait de grosses structures qu'on connaît, que ce sont des noms qui nous sont tous communs, hein, Amnesty International, Human Rights Watch, Oxfam, etc., ce genre de choses. Et là, on a vraiment c'est des gens qui font vivre, effectivement, comme tu disais, ces dossiers qui les alimentent, qui procèdent à des enquêtes et qui vont défendre les plaintes et qui vont poursuivre les génocidaires qui sont repérés ou les génocidaires suspectés comme tels et qui poussent la justice à aller jusqu'au bout.
Oui, parce que normalement, c'était le parquet qui aurait dû de lui-même poursuivre ces présumés génocidaires dont on connaissait l'existence. Or, le parquet en France, à aucun moment, ne s'est élevé contre la présence des présumés génocidaires qui sont en France. C'est-à-dire, actuellement, encore aujourd'hui, les seuls qui sont poursuivis en France le sont tous suite aux plaintes que nous avons déposées. Alors, vous l'avez signalé, par des grandes associations pour les six premières, FIDH, la LDH, Survie, etc. Mais pendant des années, les juges d'instruction n'avaient pas les moyens de travailler. Quand on les rencontrait, d'abord, ils se succédaient très souvent. Mm-hmm. Ils restaient un an, puis ils avaient une promotion. Donc le dossier passait à un autre. Il fallait repartir à zéro. Il y en a qui sont restés plus longtemps, je pense en particulier à Madame Pousse qui est restée 10 ans, mais qui n'avait pas les moyens de travailler, puisqu'elle avait aussi, en plus des dossiers du Rwanda, elle avait tous les autres dossiers, des crimes qui étaient en France, les délits, etc. Donc elle ne pouvait pas se consacrer. Et il a fallu très longtemps pour que des juges d'instruction puissent partir au Rwanda en commission rogatoire, puisque c'était l'étape indispensable pour qu'il y ait des procès. Et ça, ça s'est surtout fait depuis janvier 2012.
C'est extrêmement récent.
C'est récent, depuis que la France a créé à Paris, on a créé le pôle crime contre l'humanité au TGI de Paris, et on a nommé 3 juges d'instruction à temps plein, épaulés par un certain nombre de gendarmes, Et donc, depuis ce jour-là, effectivement, les juges d'instruction, les gendarmes partent très souvent en commission rogatoire au Rwanda, enquêter, mais uniquement, pratiquement jusqu'à maintenant, dans les plaintes que nous avons déposées.
Et tu mettrais sur le compte de quoi cette peut-être pas timidité, mais en tous les cas, cette inertie, oui.
Ah ben, je crois que c'est assez clair. Vous savez, il suffit de ne pas donner à la justice les moyens de fonctionner. Donc, je dirais, c'est des raisons politiques. Il faut savoir quand même dans quel contexte politique français le génocide...
J'avais posé la question, justement.
Le génocide s'est déroulé. Ouais. Quand même, la France avait des liens très étroits avec le président Habyalimana, le gouvernement français. Je ne dis pas la France, il ne faut pas dire la France, parce que les Français n'y sont pour rien, ni vous ni moi. Le gouvernement français a engagé des soldats au Rwanda sans en référer au Parlement.
C'était la Francafrique, ce qu'on appelait la Francafrique.
C'est ça, hein, la Francafrique ou la France-Afrique. Donc, je dis bien, non pas la France, mais le gouvernement français de l'époque s'est engagé. Des militaires français ont combattu aux côtés de l'armée rwandaise contre le FPR.
Je te coupe la parole, pardon. C'est pas des délires hein, dans ce qu'on est en train de vous dire, puisque même des organisations ou des structures aussi gauchistes que les missions d'information parlementaire, missions d'information parlementaire, ce qui veut dire que c'est pas une commission d'enquête. Non. Les gens ne sont pas obligés de venir témoigner. Hein. C'est juste un travail de collègues, des gens qui veulent bien collaborer justement à cette enquête, a précisé que les militaires français avaient été à la limite de l'engagement direct. Donc, allez savoir ce que ça veut dire. Mais en tous les cas, il y a vraiment...
Oui, cette mission...
Il faut la lire, le rapport de cette mission. C'est très, très intéressant.
Le seul inconvénient, c'est qu'ils ne sont pas allés assez loin. Ils ont fait des bons constats, mais ils n'en ont pas tiré les conclusions qu'ils auraient pu en tirer à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle, nous, on demande aujourd'hui de déclassifier un certain nombre de documents, parce que on veut savoir... On a notre idée, mais on veut savoir quel a été
officiellement
le rôle exact du gouvernement français et de l'armée française. Alors aujourd'hui, bien sûr,
sur ce génocide et sur avant d'ailleurs, il y avait eu d'autres...
avant. Et puis le rôle du gouvernement français, c'est ces soldats français qui sont allés là-bas, qui ont combattu contre le FPR qu'on appelait les rebelles, les Khmers noirs. Quel a été leur rôle exact? Quelle était leur mission exacte? Il y a eu l'opération turquoise. Les hauts gradés savaient en quoi ça consistait, mais les militaires de base qui ont été envoyés, ils ne savaient même pas qui étaient les Hutus et les Tutsis. Ouais. Ils ont été acclamés par des gens qui criaient « Vive Mitterrand, vive la France !» Et ils se sont rendus compte à un moment donné que c'était les tueurs qui les acclamaient. Eux, ils croyaient que c'était les gens, que c'était les victimes. Mm-hmm. Donc voilà, il faut absolument faire la clarté sur ces événements, parce qu'on parle quand même de choses graves aujourd'hui. On parle de complicité.
Oui, on parle de complicité. Je crois qu'il y a eu des livres là qui viennent de sortir là-dessus.
Oui, alors depuis avec la 20e commémoration, beaucoup de livres ont été écrits. Il y en a un de François Graner sur le sabre
et la machette.
Et la machette. voilà, où il met toujours en parallèle les déclarations des militaires. Or, quand on évoque le rôle des soldats français, évidemment, les militaires se raidissent. Et ils ne veulent pas reconnaître le rôle qu'ils ont joué. Ceci dit, derrière les militaires, il y a aussi les politiques. Les militaires sont allés au Rwanda avec telle et telle mission, c'est qu'ils étaient envoyés quand même par des politiques. Alors pour nous, les plus grands responsables au niveau politique, c'est François Mitterrand, mais on ne peut plus rien faire. Il y avait quand même aussi Hubert Védrine, qui avait un rôle important. Éventuellement, il y a eu aussi Alain Juppé, Balladur si vous voulez, le rôle de Balladur, c'était plutôt de contrebalancer. Si Balladur n'avait pas été là, peut-être que les parachutistes français auraient sauté sur Kigali à une certaine époque. Peut-être. C'est comme ça qu'on est arrivé à ce qu'on a appelé une opération humanitaire, l'opération turquoise, mais qui a été décidée fin juin 1994, le génocide était pratiquement terminé. Hein, donc voilà. Donc nous, on demande à ce que, on fasse la lumière sur cette complicité du gouvernement français de l'époque, complicité diplomatique, financière, militaire, puisque des armes ont été livrées encore aux tueurs pendant le génocide.
Pendant le génocide. Hein.
Donc on demande simplement que la lumière soit faite, que la France regarde quand même enfin son histoire dans les yeux. Quand je pense que, alors évidemment, le président Kagame lors de la 20e commémoration a accusé la France de génocide. Et évidemment, il y a eu un raidissement, là encore, de nos responsables politiques qui ont refusé d'envoyer le représentant, qui était Mme Taubira, qui, elle, à titre personnel, je crois, avait des relations assez privilégiées avec le Rwanda. Mais elle était ministre de la Justice, elle ne pouvait pas... C'était ou bien elle acceptait la décision de François Hollande et du gouvernement français, ou bien elle démissionnait. Bon, donc personne de la France ne représentait le gouvernement français à la 20e commémoration.
Quand on connaît les liens historiques entre
Eh oui, et puis on ne commémore pas pour faire plaisir au président Kagame ou au gouvernement rwandais. La 20e commémoration, c'est le plus d'un million de victimes qui ont été massacrées dans des conditions innommables et dont on veut rappeler la mémoire et le souvenir.
Ouais,
c'est ça.
Tout à fait.
Et là, voilà, on se retrouve, pour des raisons diplomatiques, on se retrouve avec une absence de représentants français. Alors évidemment, il y a eu un raidissement à Kigali aussi, puisque finalement, c'est l'ambassadeur de France au Rwanda qui devait participer aux 20e commémorations, et on l'en a empêché là-bas sur place, en disant, pas de mascarade, quoi.
Mais dans cette histoire, on a l'impression, effectivement, que déjà, il a fallu énormément de temps pour reconnaître ce génocide, d'une part, un génocide, en tous les cas, de trouver, avec, on dirait, soit une indifférence, soit un mépris, à la fois de la communauté internationale et en particulier de la France vis-à-vis de l'Afrique et de cette partie de l'Afrique des Grands Lacs. Hein. Faut encore rappeler que tu parlais de la responsabilité de la France, c'est évident. D'autre part, il y a aussi une partie, c'est pas pour dédouaner, hein. mais il y a une partie de la responsabilité de la communauté internationale.
Oui, de la Belgique, des Nations Unies, bien évidemment.
Des casques bleus, etc. Il y avait une mission des Nations Unies à ce moment-là. Ouais. Je crois même, tu me corriges si j'ai une bêtise, que le Rwanda était en 94 membre du Conseil de sécurité à titre provisoire, hein, membre tournant
un membre du Rwanda faisait partie effectivement des 15 membres non permanents du Conseil de sécurité, à tel point que évidemment il a fourni au Conseil de sécurité des informations qui allaient dans le sens du régime génocidaire, qui a participé à la désinformation totale à ce moment-là.
Ouais. Avec des témoignages de casques bleus sur les lieux qui font remonter tout de suite, notamment aux agences de presse internationales, qu'il se passe des choses et une espèce d'apathie, d'indifférence.
Il y avait surtout le représentant de la MINUAR qui était le général Dallaire, canadien, qui effectivement a essayé d'alerter la communauté internationale, mais il n'a pas été suivi. Il faut savoir que dès le début du génocide, le Conseil de sécurité a décidé de réduire la force des Nations Unies, qui était de l'ordre de 2500 hommes sur place, elle a été réduite très 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 rapidement à environ 400 soldats. Et ce qui est grave également, c'est qu'on en est resté, si vous voulez, au niveau 6 de la mission de la MINUAR, c'est-à-dire que les soldats, les casques bleus, ne pouvaient réagir que s'ils étaient attaquer eux-mêmes, alors qu'il aurait fallu immédiatement passer au niveau 7. C'est-à-dire que si les soldats de la MINUAR, les casques bleus, avaient pu tirer sur ces fous qui tenaient les barrières, ils auraient probablement détalé comme des lapins. Et relativement rapidement, je pense qu'on aurait pu assainir la situation. On n'aurait pas empêché les premiers morts du génocide, mais probablement, et c'est même certain, on ne serait pas allé jusqu'à plus d'un million de morts, sans compter tout ce qui a pu se passer après le génocide, la fuite des tueurs vers le Congo, qui emmène avec eux une foule immense d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards, etc., comme un bouclier humain, avec l'espoir de revenir prendre le pouvoir à Kigali. Et on en paye encore aujourd'hui les conséquences, ces milices-là, en particulier les FDLR, dont certains sont en train de se rendre, mais en posant leurs conditions. Ils veulent se rendre, mais ils voudraient aussi dialoguer avec le gouvernement rwandais. Et le Rwanda ne veut pas dialoguer avec des FDLR qui, pendant 20 ans, ont essayé de revenir au Rwanda, sont venus de temps en temps pour tuer des victimes, tuer des rescapés, tuer des témoins, et puis qui ont mis, avec d'autres milices, dans le nord Kivu en particulier, le nord et le sud Kivu, qui ont mis la pagaille là-bas dans toute cette région. Ils sont réputés pour violer, pour tuer systématiquement. Donc toute la région des Grands Lacs a été déstabilisée depuis 20 ans, mais par la présence au Congo de toutes ces hordes de tueurs assoiffés de sang qui voilà, dont on ne sait plus comment se débarrasser. Et heureusement encore, le Congo Burundi, est complètement déstabilisé. Alors évidemment, il y a tout le problème de la richesse du Congo que
bien
tout le
sûr,
monde convoite.
Bien sûr.
Et pas seulement, quand je dis tout le monde, c'est aussi tous nos pays occidentaux qui voudraient bien se tailler la part
du lion. Je pense que justement, on essaiera de revenir un peu dans la seconde partie de l'émission sur cette histoire et sur cette région afin peut-être d'éviter malheureusement de traiter ce biais-là que par le biais du malheur ou en tous les cas des événements comme ça, parce que c'est une région qui a son histoire particulière, et le Rwanda est un pays qui a une histoire évidemment particulière comme tous les autres pays, mais qui a une histoire, et c'est très important de la comprendre pour justement ne pas penser que les génocides comme ça tombent du ciel.
Ah non, non, mais les génocides ne sont pas tombés du ciel. Hein, c'est le résultat
bien sûr,
de toute une histoire.
Bien sûr,
histoire,
bien sûr de toute une déstructuration d'une société et de la reconstruction d'une société de force pour la faire entrer dans certains
cas. C'est l'histoire de la colonisation du Rwanda, même si le Rwanda n'a jamais eu le statut officiel de colonie,
ouais.
Puisque c'était un pays d'abord, on en parlera,
sous tutelle,
sous tutelle de la Belgique, etc.
Mais une dernière question sur la justice. Comment toi, tu as considéré, quelles ont été tes premières impressions quand tu as vu cette justice qui est quand même normalement le plus haut degré de la justice, parce qu'être accusé de génocide ou de crime contre l'humanité, c'est se poser comme étant défenseur universel ou de valeurs universelles. Quel a été ton sentiment, toi, devant le déroulement de cette justice?
C'est-à-dire que la justice internationale existait contre les présumés génocidaires, puisque très rapidement, le Conseil de sécurité a créé les grands tribunaux pénaux internationaux, et en particulier pour le Rwanda, le TPIR à Arusha, pour juger les grands planificateurs. On pourrait discuter du rôle du TPIR, voire le critiquer. Et personnellement, je ne m'en prive pas parce que...
Tu nous dis l'acronyme, un tribunal pénal international pour le Rwanda.
Oui, tribunal pénal international pour le Rwanda, qui finalement aura jugé, puisqu'il va fermer définitivement ses portes normalement à la fin de l'année, puisqu'il est en train de juger maintenant uniquement les cas, les affaires en appel. Mais en combien d'années? En 15 ans, le TPIR aura jugé combien? Au maximum 70 personnes, acquitté une vingtaine, parfois dans des conditions scandaleuses, comme c'est le cas du frère d'Agathe Abialimana, qui est aujourd'hui en France, son frère Protez Igiraniraso, qui avait été condamné en première instance et qui a été acquitté en appel, uniquement pour des raisons de procédure ou de... Voilà, enfin, c'est scandaleux, quoi. Donc, ce tribunal a lieu. Maintenant, nous, si vous voulez, à un moment de notre histoire personnelle, on a été interpellés. On a dit, mais c'est vrai, finalement, ces génocidaires-là qui sont ici en France, c'est pas normal qu'ils soient là et qu'ils continuent à vivre en toute impunité. Et si vous voulez, nous, on a commencé par mettre le petit doigt dans l'engrenage. Probablement que si on avait su où ça allait nous emporter, parce que je reconnais, ça a pris depuis 20 ans, ça a pris notre existence, ça a pris notre vie sociale en a pris un coup, notre vie familiale aussi. On avait des enfants qui ont probablement qu'on ne leur a pas donné tout le temps qu'on aurait pu leur donner ou qu'on aurait dû leur donner. Maintenant, on a de la chance d'avoir des enfants qui sont d'une grande générosité et qui ont accepté notre engagement et qui le soutiennent aujourd'hui. Mais donc... C'est petit à petit qu'on s'est lancé dans ce combat, alors que nous n'avions aucune connaissance juridique. Personnellement, je n'ai jamais ouvert un livre de droit. C'est sur le terrain qu'on a, et puis parce qu'on est épaulé par des avocats, mais c'est sur le terrain qu'on a appris les notions de compétences universelles, les juges d'instruction, le parquet, enfin la mise en accusation, l'ordonnance de mise en accusation, et tout ce vocabulaire avec lequel finalement il faut quand même savoir jongler. Mais bon, c'est peut-être pas ça le plus important. Je crois que ce qui est important, c'est la détermination avec laquelle on s'est emparé de ces affaires. Et puis, je crois, le grand sérieux avec lequel, finalement, on a mené aussi ce combat. Parce que tous nos détracteurs ici en France, et Dieu sait s'ils sont nombreux, veulent nous faire passer pour des petits rigolos, soit pour le bras de Kagame ici France.
Bien sûr.
Ça, c'est la notion, c'est la version de Péan en particulier, Pierre Péan, qui est un de nos grands adversaires. Et on se demande pourquoi. Enfin, on se demande pourquoi.
Étonnant quand même. Hein, le Monde, parce qu'à cette époque-là, je crois qu'il était journaliste au Monde quand ça s'est passé là-bas. Comment ça s'explique, le fait?
Non, alors le Monde, en fait, s'est contenté de retransmettre la version officielle. Il y a eu une désinformation totale sur le Rwanda, en particulier par le Monde. Il y a quelques journaux, qui ont fait, je dirais, un travail sérieux pendant le génocide. J'en citerai que deux. Alors, je ne parle pas du Soir ou des journaux étrangers. Ouais. Mais en France, il y avait le journal La Croix, le journal catholique La Croix, et L'Humanité.
Et L'Humanité, oui. Ouais.
Et L'Humanité. Ce sont véritablement les deux, les deux journaux qui ont pratiquement le mieux informé sur ce qui se passait au Rwanda. Donc, pendant les 3 mois du génocide, il y a eu une totale désinformation. C'était la version officielle qu'on donnait. Voilà. Bon. Après, eh bien, même nous, dans notre combat pour la justice, ça consiste aussi à informer autrement. Hein, c'est-à-dire que dénoncer la présence des présumés génocidaires au Rwanda, c'est rappeler le rôle qu'a pu avoir le gouvernement français de l'époque, et c'est en même temps dire, eh bien, voilà, on a chez nous aujourd'hui des gens qui ont participé activement au génocide, qui ont réussi à fuir le Rwanda pour X raisons, soit parce qu'ils avaient des appuis ici en France, parce qu'il y a
pas n'importe qui, ceux qui sont en France.
Alors il y a quelques gens de base, mais en général,
c'est pas n'importe qui.
En général, on a Madame Abialimana, on a des colonels, on a l'ancien chef d'état-major adjoint de l'armée, le colonel Seloubouga, on a un autre colonel Bivouga Bagabo, on a des médecins, on a des, il y a un prêtre, il y a des voilà. C'est effectivement, ce ne sont pas les simples miliciens
qui sont au Congo.
Vous ne vous faites pas un nom en allant chercher des gens qui auraient été là par hasard, c'est clair.
Ah ben non, et puis d'ailleurs, il ne s'agit même pas pour nous de se faire un nom, parce que ce qui est important, nous, on le dit sur notre site internet, hein, qu'il ne faut pas oublier d'aller consulter, parce que c'est là que vraiment les informations passent, sans haine ni vengeance, hein, pour reprendre la formule de Simon Wiesenthal. Nous, véritablement, ce qui nous intéresse, c'est que les présumés génocidaires qui sont en France et à propos desquels on a des témoignages, eh bien, on estime qu'il est absolument normal qu'ils soient jugés en France, dans la mesure où, alors ça peut-être qu'on l'abordera aussi tout à l'heure, dans la mesure où la France, enfin les magistrats français de la Cour de cassation, ont toujours refusé, et ça s'est produit déjà à 17 reprises, ont toujours refusé d'extrader ces personnes-là vers le Rwanda.
Oui, bien sûr. Bah oui.
Et ça, c'est pour nous, si vous voulez, quelque chose qui n'est pas acceptable.
Acceptable.
Parce que ce principe de la non-rétroactivité que la Cour de cassation met en avant, le Rwanda n'avait pas dans son arsenal judiciaire
à ce moment-là
la loi organique qui punit le génocide est postérieure au génocide lui-même, mais ça ne tient pas la route dans un cadre de génocide. Papon, Touvier, Barbie ont été jugés en France, alors qu'il n'y avait pas spécialement de loi pour les juger. On les a quand même jugés, parce que ce sont des crimes contre l'humanité, ce sont des crimes de génocide. Et donc, la Cour de cassation, je dirais, est pratiquement la Cour de cassation en France, est pratiquement la seule à tenir aujourd'hui ce raisonnement. Le TPIR a accepté d'extrader vers le Rwanda. Il y a d'autres pays, des pays scandinaves, le Canada, etc., extrade aujourd'hui les présumés génocidaires vers le Rwanda.
Mais c'est politique, c'est complètement politique, puisque la France ne considère pas que le gouvernement actuel du Rwanda soit démocratique. Donc on n'extradit pas des gens dans un pays qui n'est pas démocratique.
Alors ça c'était l'argument premier au tout départ. Ça souvent les cours d'appel, ça n'a même pas besoin d'aller jusqu'à la Cour de cassation. Beaucoup de cours d'appel, même si certaines avaient donné des avis favorables, amenaient cet argument-là. Il n'y aura pas de procès équitable au Rwanda. Mais la vraie raison aujourd'hui de la Cour de cassation, on a oublié le procès équitable parce que le Rwanda déjà a supprimé la peine de mort en 2007, même pour les crimes de génocide.
Ouais.
Donc, il n'y a plus d'obstacle pour ça. Mais l'argument, c'est de dire le Rwanda ne peut pas juger des présumés génocidaires dans la mesure où il n'y avait pas de peine prévue à ce moment-là pour un tel crime. Ça ne tient pas la route.
Ça ne tient pas la route, hein, ça c'est clair.
Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que, justement, et ça nous permettra d'embrayer sur l'histoire, qu'il y ait une espèce de sentiment de supériorité civilisationnelle, d'européanocentrisme en disant nous sommes les promoteurs de la justice, du droit, des lumières, et ce n'est pas aussi au Rwanda, le Rwanda n'est pas en mesure, que ça soit matériel, intellectuel, judiciaire, de pouvoir juger des choses comme ça.
Oui, mais enfin, le Rwanda est quand même le pays qui a jugé le plus de génocidaires.
On est d'accord, d'autant plus qu'il y a eu des procédures là-haut dont on parlera peut-être en fin d'émission, qui sont justement extrêmement intéressantes et pertinentes
bien
pour
sûr
rendre la justice au sens social et réel du
terme.
Bien
sûr, quoi. La France, bon, c'est traditionnellement le pays des droits de l'homme, mais je pense qu'on n'a pas ni de leçons, ni de morale à faire à personne.
C'est mon bon plaisir.
Vous savez, l'état de la justice en France n'est pas toujours admirable, l'état des prisons, bien etc. Vraiment, on n'a pas de leçons à faire. Et alors, dans la mesure où la France refuse d'extrader, enfin, où la Cour de cassation refuse d'extrader, ben, c'est le principe, c'est l'adage latin hein, qu'on applique, aut dedere, aut judicare, soit, excusez-moi, soit remettre, hein, soit juger. Donc, puisqu'on ne veut pas remettre, eh bien,
on juge.
Qu'on juge.
Très bien.
Depuis 2 ans, là, je crois que la justice française est en marche, et je crois, effectivement, je pense. D'une manière relativement indépendante.
Ça a l'air.
Je voudrais rendre hommage aux juges d'instruction qui font, parce que il faut voir comment s'est déroulé le procès de Pascal Sibikango. On en dira peut-être un mot parce que ça a été quand même un événement considérable en France. Hein. Le 14 mars, Pascal Sibikango a été condamné par un jury de citoyens et des juges, a été condamné pour génocide. C'est la première fois en France. Ouais. Et ça, c'est suite à une plainte du collectif des partis civils pour le Rwanda. Soutenu par d'autres associations comme Survie, FIDH, LDH, la LICRA, mais voilà, en France, un présumé génocidaire
a été condamné.
Aujourd'hui, on l'appelle génocidaire parce qu'il a été condamné. Alors évidemment, il a fait appel. Donc, on va recommencer. Mais c'est quand même un signe.
Alors, on fait une pause musicale. Ouais, on va écouter, faut pas je fourche, surtout pas, Gaël Faye. Et on se retrouve après dans quelques minutes.
L'Afrique, je l'ai en moi, et je chante pour sa mémoire, je suis humain, ni métisse, ni blanc, ni noir. Le Rwanda, je le pleure chaque 7 avril, même si Hubert Védrine n'est pas de notre avis. Au fait, vous savez, je suis franco-rwandais, et une partie de moi-même a tué l'autre sans me le demander. Le Rwanda et la France m'ont tout donné, et m'ont tout pris, je veux être en paix avec moi-même, et cela à tout prix. Je slame des mots, moi, j'ai pas que des mots, j'ai mes souvenirs, couleurs, de quand j'étais môme, de quand j'étais les pieds nus dans la latérite. Afrique à la dérive, je suis sentinelle sous la guérite. La pluie sur le goudron chaud, senteur que l'on humecte. J'ai dû quitter ce monde beau qui m'avait vu naître. J'ai débarqué un soir d'hiver à aéroport Charles de Gaulle, victime des dommages collatéraux du discours de la boule. Comme des métaux, c'est mon fond, ma forme, flot, métaphore que je manie, comme le feu la forge, ils ont partagé l'Afrique, à l'équerre, à l'écart, à mon quart ou dans mon tiers de monde, devenu ma terre, j'ai trop pleuré quand mon peuple a perdu la raison, ce sont nos larmes qui ont rempli tous les grands lacs de la région, un hommage à la paix, pour ce mort au combat, soldat inconnu, hasta siempre, Fred, Rui, Gema, écoutez, nous ne sommes pas du même monde, vous avez grandi en paix, nous revenons d'outre-tombe. Long, très long, le chemin du retour. Les paroles ne servent à rien lorsqu'on épuise tous les recours. Reprendre ce que la vie n'offrait pas sous des tentes du HCR et des couloirs de l'OFPRA. Nos familles réfugiées, décimées, déracinées dans des pays frontaliers, elles furent marginalisées. J'en ai rêvé du pays de Guianga, des murmures de l'Inanga et des poèmes de l'Ugamba. D'écouter la rumeur sur les collines le matin, dans les reflets jacaranda de nos aurores de satin. J'en ai rêvé du pays du lait, du miel, des boissons fermentées et de la bière d'hydromel. Nyabarongo, à tout jamais, tu es l'encre de ma plume, et les cornes de la vache sacrée sont mon croissant de lune.
Yeah. Avril, mai, juin 1994, un peu partout en Europe et dans le monde, on commémore cette année-là le 50e anniversaire de la victoire sur le nazisme et la marche en avant d'une Europe reconstruite autour du fameux « plus jamais ça ». Mais au même moment, au vu et au su de tous, toujours en ces mois d'avril, mai, juin 1994, une partie de l'humanité était anéantie sous nos yeux au Rwanda. 800 000, 1 million, peut-être même un peu plus. À ce niveau d'horreur, les chiffres n'ont plus aucun sens et à la limite, cela importe peu.
Alors voilà, tu peux nous renseigner sur le son qu'on entend à la fin là, de cette chanson ?
Oui, alors en fait, il s'agit de Théogène Karabenga, qui était un de nos amis, qui est décédé il y a 2 ou 3 ans, et qui était fortement engagé. C'était un journaliste de RFI, qui a été très engagé à nos côtés pour le collectif des partis civils, pour le Rwanda, et c'était un peu en hommage à lui,
oui.
Que Gaël Faye... C'est en pensant à lui que Gaël Faye avait écrit cette chanson et il lui avait dédié.
Surtout, sa remarque est extrêmement pertinente, hein, la manière de présenter, effectivement, 50 ans après, quand on voit aujourd'hui le baratin qu'on nous a sorti à 70 ans après le D-Day, hein, on a effectivement les commémorations et les hommages qu'on veut bien donner ou qu'on veut bien mériter. Alors, je crois que, effectivement, peut-être que pour à la fois redonner quand même un peu de crédit à cette histoire et toujours essayer de faire de la contre-information, c'est-à-dire de comprendre aussi l'histoire de ce continent qui est l'Afrique. Ce serait bien de revenir un petit peu, peut-être pas sur l'entièreté de l'histoire de la région des Grands Lacs, parce que malheureusement on n'aura pas le temps, même si c'est passionnant, mais en tous les cas l'histoire du Rwanda. Le Rwanda, c'est quand même un royaume qui aura une existence en tant que tel pendant au moins 10 siècles, donc c'est pas quelque chose qui n'est rien. On pourrait penser, selon la formule de nos dirigeants, que l'Afrique n'est pas l'homme noir, n'est pas entré dans l'histoire. Eh ben si, il y avait une histoire au Rwanda, comme il y avait une histoire partout ailleurs en Afrique, et comme il y avait une histoire autour de cette région de l'Afrique des Grands Lacs, qui sera découverte très tardivement, en tous les cas concrets, très tardivement. On pense même que le Rwanda serait un des derniers pays où la présence européenne serait arrivée vers 1890-1892, ça reste encore... présence allemande au départ, puis ensuite présence belge.
Oui, alors si les Occidentaux ont mis longtemps, je pense, à découvrir le Rwanda, c'est d'abord par sa position géographique, hein, qui est quand même une sorte de nid d'aigle au centre de l'Afrique, et puis aussi parce que c'était un pays qui défendait bien ses frontières. Il n'a pas été facile pour les premiers colonisateurs d'entrer au Rwanda. Et effectivement, comme vous le dites, c'est les Allemands qui vont arriver les premiers et qui vont rencontrer. Ils découvrent un pays qui, effectivement, c'est une monarchie dirigée par un roi, un Tutsi, et qui est un royaume vraiment très, très bien organisé. Alors, il se trouve que l'influence allemande n'a pas été très importante, puisque très rapidement, l'Allemagne va perdre toutes ses colonies.
Après la
Première Guerre mondiale. Et comme la Belgique était juste à côté, le roi possédait le Congo. Eh bien, on a remis, sous le régime de tutelle, on a remis à la Belgique le Rwanda et le Burundi voisins.
C'est ça.
D'ailleurs, qu'on appelait à l'époque Rwanda-Urundi. Qui étaient des pays un petit peu liés et dans lesquels on trouve, je dirais, les mêmes types de populations, c'est-à-dire des Tutsis, des Hutus et des Twa, qui sont les trois composantes sociales, et non pas, comme on a bien voulu le dire, même pendant longtemps, et comme certains le disent encore, des ethnies, parce que ce n'était pas des ethnies au sens propre du terme. Le mot ethnie n'existe même pas dans la langue kinyarwanda. La structure de la population au Rwanda, c'était des clans dans lesquels on retrouvait des Tutsis, des Hutus et des Twa. Les Twa étant plutôt quand même marginalisés, parce que ils sont assimilés, si vous voulez, aux pygmées, donc ils étaient plutôt dans les forêts, mais c'était aussi, on les retrouvait à la cour du roi parce que c'était des amuseurs publics. Mais voilà, les deux grandes composantes de la population, c'était des Hutus et des Tutsis, qui, je le répète, n'étaient pas des ethnies, mais des catégories sociales.
Catégories sociales, oui.
Voilà.
Avec d'un côté l'élevage.
Les Tutsis, voilà, plutôt possédant des troupeaux. Et les Hutus, eh bien, s'occuperont du travail de la terre. Mais avant l'arrivée des colons, eh bien, on pouvait très bien changer de classe sociale. C'est-à-dire qu'un Hutu à qui un protecteur remettait quelques vaches, un troupeau, une dizaine de vaches, eh bien, il pouvait devenir Tutsi. Donc, vraiment, rien ne correspond au Rwanda à la définition de l'ethnie, puisqu'au Rwanda, tous les Rwandais avaient un même lieu d'habitation, une même langue, une même culture, une même croyance en un dieu unique. Donc, vraiment, rien ne correspond à l'ethnie. Et pendant le génocide, on nous a parlé de guerre ethnique, de guerre
comme d'habitude, traditionnelle,
tribale. Voilà. Ouais. Hein, voilà. Et donc, il y a eu quand même... alors après, c'est donc la Belgique qui s'est rapprochée, qui est allée au Rwanda. Et comme l'avaient fait les Allemands, ils ont quand même favorisé le régime en place. Hein, c'est-à-dire, ils se sont mis du côté du pouvoir en place, du roi... Ils sont même allés jusqu'à déstructurer un petit peu la société parce qu'il y avait un certain nombre, par exemple, de sous-chefs qui étaient Hutus et les Belges ont presque tout fait pour que tous ces sous-chefs Hutus-là soient complètement éliminés. Ils n'avaient plus ces responsabilités-là. Et puis, il y a une date très importante, surtout en 1931, vous avez un événement qui va être capital pendant le génocide, c'est qu'on va inscrire sur les cartes d'identité, parce qu'à ce moment-là, on met en place des cartes d'identité, et on fait inscrire sur les cartes d'identité la notion dite ethnique.
Ethnique, ouais.
C'est-à-dire que vous aviez sur la carte d'identité la mention des quatre Hutus, Tutsis, Kwa ou naturalisés, et c'était indiqué. Et à partir de ce moment-là, ça a figé complètement si vous voulez, l'appartenance.
La stratification sociale,
voilà.
Quoi.
Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on ne pouvait plus devenir ou tout on ne pouvait plus changer. Et jusque dans la fin des années 50, évidemment, la colonisation et l'Église se sont mis du côté des Tutsis, c'est-à-dire que c'est même que les Tutsis qui, pendant longtemps, étaient éduqués, etc. Et puis quand la colonisation et l'Église catholique ont senti venir le vent de la décolonisation, comme dans tous les pays d'Afrique. Les Tutsis ont été considérés plutôt comme des communistes qui revendiquaient. Et donc, la colonisation, les colons belges, qui avaient peut-être aussi importé leur propre division flamand, wallon, etc., puisqu'on retrouve un petit peu ces mêmes catégories, eh bien, ils ont décidé de dire, eh bien, écoutez, il faut que le pouvoir revienne aux plus nombreux, à la majorité, la majorité du... Et donc, c'était les Hutus qui représentaient 85% de la population. Et donc, effectivement, il y a eu des élections. Et évidemment, les Hutus ont pris le pouvoir avec la bénédiction des colons belges et de l'Église catholique. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le Tutsi est devenu un citoyen de seconde zone. Et ça va durer pendant un certain nombre d'années. Il y a eu des pogroms.
Il y a eu des pogroms réguliers. 59, je crois.
59,
62, même, effectivement, oui. Avec des vagues d'exil, justement, qui vont faire.
Chaque fois, des exilés qui partent, alors parfois loin, parfois simplement dans les pays voisins, la Tanzanie,
le Burundi,
le Congo, le Burundi ou l'Ouganda.
En s'engageant parfois dans l'armée, justement, pour constituer.
Alors en Ouganda, un certain nombre de réfugiés, mais qui étaient partis enfants, hein, c'était pas.
Bien sûr.
C'est leurs parents qui étaient partis, se sont engagés, effectivement, aux côtés de Museveni, l'ont aidé, hein, puisqu'on retrouve dans la haute hiérarchie militaire des Rwandais d'origine. Le président Kagame actuellement était
à une
responsabilité importante. Voilà. Et donc, pendant 30 ans, il y a eu des programmes, on éliminait des Tutsis, mais ça ne faisait peur à personne. En 1963, il y a quand même eu dans la préfecture de Gikongoro environ 20 000 morts. Bertrand Russell avait dénoncé ça, il avait même parlé de génocide à l'époque, d'accord. Mais c'est passé inaperçu. Et donc régulièrement, on éliminait des Tutsis en réaction à des incursions que les anciens réfugiés faisaient de temps en temps. Voilà, c'était des prétextes, évidemment. Puis Habyalimana va prendre le pouvoir en coup d'État en 73, va un petit peu pacifier plus ou moins le pays, la situation. On commençait à espérer de nouveau, même si beaucoup de Tutsis étaient partis à cette époque-là. Dafrosa, mon épouse, fait partie des rescapés de 1973, hein, puisque les étudiants ont été chassés des écoles par leurs propres, leurs propres amis, hein, qui vivaient, je dirais, en relative harmonie. Hein, même si, je dis, le Tutsi était quand même toujours considéré comme un citoyen de seconde zone. Et puis, ben voilà, on a vu monter cette haine du Tutsi jusqu'en 1990, où le FPR a attaqué en venant d'Ouganda, précisément. L'armée française vole au secours de l'armée
d'Abiy Ahmed. Alors le Front Patriotique Rwandais,
excusez-moi.
Qui est effectivement une armée et un parti constitué majoritairement des exilés.
Exilés d'Ouganda, qui ont été rejoints un petit peu par d'autres, des jeunes qui partaient du Burundi, de Tanzanie ou du Congo, qui allaient rejoindre cette armée-là.
Qui jamais ne va abandonner le combat et va toujours...
Oui, même si au départ, ils ont eu... Même si au départ, si vous voulez, ils ont quand même essuyé pas mal d'échecs militaires. Dès le deuxième jour, par exemple, le Fred Rwigema, qui était le stratège du FPR, est tué, et c'est à ce moment-là qu'on fait appel à M. Kagame, qui était aux États-Unis. On le fait venir pour prendre la tête de cette armée. Et puis, en 1993, on espère, hein, puisqu'on signe finalement les accords d'Arusha, la paix entre... on dit, tiens, finalement, ça y est, on va s'entendre... Le FPR, il y a une place faite au FPR, beaucoup trop importante pour les extrémistes Hutus de l'époque. Pendant un an, on va traîner. Et puis au moment où Habyalimana se décide enfin, sous la pression d'autres pays, la pression internationale, se décide enfin à aller mettre en œuvre, véritablement reconnaître ces accords d'Arusha, il part à Dar es Salaam, en Tanzanie. Et c'est à son retour de Dar es Salaam que son avion va être abattu le 6 avril au soir.
Avec une grande partie du gouvernement.
Avec quelques membres du gouvernement, des membres français aussi, les membres français de l'équipage. Et puis, dans les heures, mais même pas dans les heures, dans les minutes qui vont suivre, Kigali va tout de suite se couvrir de barrières. Et en particulier, on va éliminer tous les Tutsis, puisque l'avion est tombé dans la propre propriété du président Habyalimana. L'avion tombe pratiquement...
C'était élucidé, ce...
Alors l'attentat jusqu'à maintenant, si vous voulez, alors il y a eu la fameuse ordonnance du juge Bruguière qui, lui, ne faisait qu'épouser les thèses officielles en disant c'est le FPR. Mais depuis, ça a été repris par le nouveau juge antiterroriste, Marc Trévidic, qui a des conclusions, qui n'a pas donné toutes ses conclusions, mais qui, il y a déjà quelques mois, a quand même signalé que les tirs de missiles seraient partis du camp, ou tout proche du camp Kanombé, qui était aux mains des extrémistes, enfin de la garde présidentielle du président Habyalimana. Donc, il y a quand même de fortes suspicions. On ne sait pas par qui. Mais les tirs seraient partis quand même de
cette zone.
Du propre camp.
Ce qui est sûr, c'est... Moi, je ne veux pas minorer l'incident, mais c'est vraiment... Ça a mis le feu aux poudres.
Hein. Oui,
c'était quelque chose qui était latent.
Mais c'était planifié quand même. Hein.
Mais bien évidemment, sinon, ce n'est pas un génocide.
C'est pas un génocide.
Même sans attentat, je pense, contre le président Habyalimana, le génocide était en route. J'ai parlé de notre propre expérience. Mon épouse est à Kigali fin février 1994. Elle se dépêche de rentrer parce que la situation est explosive. Donc, tout est en place pour que le génocide se déclenche. Bon, il a fallu cet attentat-là pour précipiter, mais c'est tout. Et je disais que dès la chute de l'avion, la garde présidentielle va exterminer tous les Tutsis qui habitent dans les environs de la résidence à Habyalimana. Tous. Il va y avoir vraiment deux ou trois rescapés. Ça veut dire qu'on a décidé dès le soir même que les Tutsis étaient responsables de l'attentat. Mais on mettait sur le dos non seulement du FPR, qui était en majorité Tutsi, même s'il n'y a pas que des Tutsis, mais la population Tutsi va être assimilée au FPR et très rapidement, ça va être des massacres considérables. Ce génocide qui va se dérouler dans des conditions absolument atroces. Alors évidemment, c'est toujours comme quand on compare à d'autres génocides, dire que le génocide au Rwanda, le génocide des Tutsis a été atroce, C'est pas pour dire que les autres génocides c'était pas atroce, mais là ça va être des gens exterminés, le vieillard, la maman, le bébé dans le dos de la maman, exterminé à coups de découpé en morceaux à la machette, jeté vivant dans les toilettes où les enfants vont mettre parfois une semaine à mourir en pleurant.
Enfin, c'est une dénégation de l'humanité du Tutsi qui a été préparée et qui est matérialisé par ce terme terrible qui est de cafard
c'était les Tutsis qui étaient traités
les
cafards
afin de pouvoir déshumaniser. De toute façon il faut toujours pouvoir déshumaniser l'autre
bien
pour
évidemment
pouvoir permettre ce genre de
ça fait partie du génocide de déshumaniser dès le départ.
Il nous reste une dizaine de minutes et on voit à quel point on pourrait passer des heures et des heures à discuter
on a brossé l'histoire
très juste, mais on y reviendra là. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir à plusieurs moments là-dessus. Quels sont aujourd'hui les prochains rendez-vous du CPCR? Et puis on a commencé avec la justice et on s'est posé des questions sur la capacité justement pour la justice de prendre des décisions aussi fortes que les crimes contre l'humanité. On ne peut pas, à mon avis, terminer sans parler de l'expérience rwandaise et de ce pays qui... et de cette société qui finalement a décidé de continuer et qui continue et qui a trouvé des voies originales ou en tous les cas des voies qu'on pourrait peut-être nous s'inspirer aujourd'hui de la réforme pénale.
Là, tu me lances sur deux pistes.
Première, c'est quels sont les prochains rendez-vous?
Alors, les prochains rendez-vous, je crois que c'est relativement simple. Tout récemment, il y a moins d'un mois, les juges d'instruction ont publié une ordonnance de mise en accusation suite au réquisitoire du parquet contre deux présumés génocidaires qui sont actuellement en prison, dont l'un est en prison depuis plus de 4 ans. Donc il faut absolument ou le juger ou le remettre en liberté. Mm-hmm. Et je pense que les juges d'instruction n'ont pas du tout l'intention de le remettre en liberté. Donc on attend les dates d'un prochain procès d'assises. Il y a eu le procès de Pascal Simikangwa en février-mars, on l'a signalé. Et là, ce serait le deuxième procès. Et puis, si vous voulez, il y a encore deux autres présumés génocidaires qui sont en prison, deux que nous avons aussi dénoncés, qui sont de la même région. C'est un Charles Touagira qui est un médecin, un ancien médecin aussi de l'hôpital de Rouen, qui avait perdu son travail suite à la dénonciation qu'on avait faite et qu'on a retrouvé tout récemment à l'hôpital de Vire, dans le Calvados. Il a été arrêté. Ainsi qu'un autre qui était plutôt lui alors un Ineramwe, quelqu'un plutôt de la base qui travaillait à la ville de Rouen et qui a été aussi qui est actuellement en prison. Donc actuellement 4 présumés génocidaires sont en prison, 2 vont être bientôt jugés, les 2 autres je ne sais pas, les juges d'instruction sont actuellement au Rwanda depuis plus d'une semaine, précisément dans 6 ou 7 cas des plaintes qu'on a déposées. Donc et puis il y aura bien sûr on nous annonce aussi la fin de l'instruction. Parce que c'est par là que ça commence, une affaire judiciaire. On nous annonce plus ou moins la fin de l'inscription dans l'affaire de l'abbé Mounier-Chaka. Qui sera une affaire importante. Parce qu'il est quand même soutenu par l'Église de France. C'est pourtant pas pour n'avoir pas alerté les responsables de l'Église de France. Personnellement, moi, je ne me cache pas, je suis chrétien, mais ça me choque d'autant plus que de voir que l'Église de France soutient un prêtre comme celui-ci, contre lequel pèse de si lourdes responsabilités. Je ne comprends pas. J'aurais au moins souhaité que l'Église soit, plus prudente, comme elle sait l'être dans pas mal d'affaires, et parfois, Donc, on aura aussi, je pense, bientôt, cette affaire-là de l'abbé Mounier-Chaka. Alors maintenant, si on revient sur la justice au Rwanda, puisqu'il va falloir bientôt terminer, le Rwanda est le pays qui a le plus jugé de génocidaires. D'abord dans la justice classique, dans les tribunaux, mais ça a pris du temps parce que la justice était complètement détruite en 94. Il n'y avait plus d'avocats, plus de magistrats. Certains avocats, certains magistrats étaient des génocidaires eux-mêmes. Tout était détruit, que ce soit les bâtiments. Donc il fallait tout reconstruire. Donc on a mis du temps à juger. Mais la justice classique a jugé et continue à juger des génocidaires. Et puis, je crois que le Rwanda a eu vraiment une idée géniale, c'est de faire appel à sa propre tradition. C'est ce qu'on a appelé les gachacha. Autrefois, lorsque il y avait un conflit entre voisins...
Ça veut dire herbe tondue.
Alors, gachacha, c'est l'herbe rase sur laquelle on s'asseyait lorsqu'il y avait un litige entre deux voisins. La vache de votre voisin était venue brouter la haie ou les légumes de votre jardin. Eh bien, on n'allait pas devant la justice. On rassemblait... et le propriétaire de la vache, le propriétaire du jardin, et puis des sages de la colline se réunissaient, et on essayait de résoudre le problème. Et le Rwanda a eu l'audace je dis bien l'audace, parce que ça a été très critiqué, d'appliquer, de faire appel à cette tradition pour juger des génocidaires. Alors évidemment, ça sous-entend, ce sont des procès sans avocat, sans magistrat, uniquement avec des sages qu'on appelle les Inyangamugayo. Ce sont des sages de la colline, dont certains se sont révélés d'ailleurs être des tueurs eux-mêmes, donc il a fallu les remplacer. Bon, toujours est-il que ça a permis, en quelques années, de juger pratiquement 2 millions de personnes. Alors, soit pour des crimes vraiment de génocide, des gens qui ont tué, mais ça allait aussi jusqu'aux voleurs de...
Bah, bien sûr, qui récupéraient.
Quand quand on avait tué la famille, il y en a qui venaient chercher les portes, les fenêtres. Moi, quand je pense, par exemple, à la maison de ma belle-mère, on n'a rien retrouvé. Là. Mm. Il ne restait que les quatre murs. Voilà. Donc, certains ont été jugés aussi pour ça. Mais il y a eu pratiquement 2 millions de procès et 1 700 000 condamnations. C'est très important. Voyez, mais ça a permis au moins, même si ça s'est déroulé parfois dans des conditions un petit peu difficiles, parce que tous les témoins ne disaient pas la vérité, que ce soit ceux qui accusaient ou que ce soit les tueurs eux-mêmes, mais ça a permis au moins, en général, aux familles de victimes, parfois, de retrouver les morts, de savoir où avaient été ensevelis les corps de ceux qui avaient été tués. Parfois, les tueurs racontaient des histoires, ils vous menaient en bateau, ils vous disaient, on les enterrait là, on creusait, il n'y avait rien. Bon, mais bon, en tout cas, je continue à dire que le Rwanda, qui a eu l'audace de faire appel à cette tradition, ça a été très critiqué par la communauté internationale. En tout cas, ça a permis au moins de juger un nombre important de génocidaires qui, pour la plupart, ne sont plus en prison, sauf ceux qui ont vraiment commis des crimes avérés. Certains ont été condamnés à des tiges, des travaux d'intérêt général. Et ça permet, si vous voulez, de reconstruire un petit peu la société, parce que c'était ça l'objectif, la réconciliation. Mais la réconciliation ne se décrète pas comme ça. C'est long, c'est un travail des cœurs. On aura probablement l'occasion d'en reparler.
Ouais, une dernière question, il y a combien d'habitants au Rwanda?
Alors, il y avait à peu près 7 millions d'habitants au moment du génocide. Il y en a aujourd'hui environ 11 millions.
Parce que pas compte, 2 millions de condamnations sur 11 millions de personnes.
C'est une société qui continue à avancer et qui continue à avoir une cohérence. En termes de leçons de justice, c'est quand même extrêmement intéressant. Ouais. Bon, malheureusement, il faut qu'on s'arrête là. Oui. On aura l'occasion d'y revenir, j'espère.
Bon, merci bien.
Merci beaucoup, Alain, et la parole est à toi.
Bon.